L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Il est encore tôt ce dimanche matin de novembre à Holcombe, une petite ville de l'Arkansas, dans le comté de Finney. Les arbres ont déjà perdu leurs feuilles face à l'hiver qui approche. Sur les prairies et les champs en friche, le vent balaye les tumbleweeds, ces buissons qui roulent sans fin sur les plaines du Midwest. Les klaxons des trains de marchandises sont les seuls à déchirer le bruit du vent. Ces immenses trains sillonnent le grenier à blé des États-Unis. En témoignent ces silos à grains qui jalonnent cette région d'agriculteurs et d'éleveurs, de paisibles communautés rurales réunies autour du rêve américain. Un rêve qui semble s'être matérialisé grâce au travail et à la détermination. Ici, personne ne manque jamais la messe du dimanche matin, et certainement pas la famille Clutter. Herbert, le père, est un fermier prospère et respecté. Sa femme s'appelle Bonnie et ses enfants Beverly et Eva. Et puis, les deux derniers, Nancy et Kenyon, âgés de 16 ans et 15 ans, représentent l'idéal américain, une famille unie et croyante. La maison familiale s'appelle la River Valley Farm. Elle incarne la réussite d'Herbert. Mais ce dimanche matin, quelque chose ne tourne pas rond. Une amie de Nancy avait rendez-vous avec la fille Clutter pour aller à l'église. Quand elle frappe à la porte d'entrée, personne ne répond. Tiens, étrange. Les deux voitures de la famille sont pourtant là, garées devant la River Valley Farm. Elle revient avec la fille du contremaître, qui possède les clés. À l'intérieur, rien ne bouge. Aucun signe de vie. Nancy, la dolence, un peu inquiète face au silence qui lui répond à travers les pièces du rez-de-chaussée. Où sont-ils? Que font-ils? Elle décide d'aller voir à l'étage, là où se trouve la chambre de Nancy. Soudain, un hurlement résonne. La fille du voisin, restée au rez-de-chaussée, en est pétrifiée. Elle grimpe les escaliers, 4 à 4, vers le premier étage où se trouve Suzanne. Celle-ci a retrouvé Nancy Clutter dans son lit, une balle dans la tête. Quand le shérif Alvin Dewey découvre les autres membres de la famille assassinée de sang-froid, nous sommes le dimanche 15 novembre 1959. Il est 7h30. Et c'est l'heure H de mon histoire. Au même moment, à des milliers de kilomètres de là, un certain Truman Capote se réveille dans son appartement new-yorkais. La veille a été bien arrosée. Le crâne douloureux, il émerge péniblement en pyjama et peignoir. Un Alka-Seltzer devrait pouvoir maîtriser le marteau pilon qui semble vouloir lui perforer le crâne. Truman Capote est déjà un écrivain reconnu. Pas que pour son style littéraire, aussi pour son style de vie. Homosexuel, il cultive une image fantasque et maniérée. Sa voix haut perchée et ses airs précieux en font une personnalité médiatique en vogue. Son dernier roman, Petit déjeuner chez Tiffany, l'a fait entrer dans le cercle restreint des grands auteurs américains. Vous vous demandez sans doute ce que ce fait divers sordide peut bien avoir à faire avec un écrivain en pleine ascension. Plus habitué des soirées mondaines new-yorkaises que des plaines du Midwest. Truman ne le sait pas encore, mais ce dimanche de novembre 1959 va changer sa vie. Au même moment, des milliers de kilomètres de là, dans une chambre d'hôtel de la petite ville d'Olat, proche de Kansas City, un homme s'est écroulé dans son lit. Il n'a eu que le temps d'enlever ses bottes avant que le sommeil ne le fauche. Des rays d'un soleil implacable filtrent à travers les stores. Ils font scintiller une bassine d'eau dans laquelle ses bottes ont été mises à tremper. Cette eau est troublée par une couleur pourpre, celle du sang. Et à quelques milles au nord, un autre homme engloutit un copieux repas en compagnie de son père et de son frère. Le repas dominical préparé par sa mère. La famille est réunie dans la cuisine de leur petite ferme. L'une de ces innombrables petites exploitations agricoles de la région qui survit tant bien que mal. Bien loin de la prospérité de celle des Clotteurs. La mère est soulagée de voir Dick rentrer à la maison. Depuis que ce Perry a fait son apparition, elle n'est pas tranquille. Les amis de derrière les murs, c'est jamais bon. Surtout pas pour son fils Dick, qu'elle espère ne plus jamais voir retourner en prison. Hier, ils sont partis à Fort Scott, récupérer de l'argent que la sœur de ce Perry devait à son frère, à ce qui paraît. Mais ce matin, elle n'a pas pu s'empêcher de regarder si le fusil de chasse du père était bien là. Elle s'est trouvée ridicule quand elle a vu le fusil toujours à la même place, posé derrière la porte d'entrée. New York, 2 jours après le quadruple meurtre. Couché dans son canapé, Truman Capote lit et relit cet article. Il est fasciné par la sauvagerie qui s'est abattue sur cette famille innocente, les Clotteurs. Il y a dans cette histoire un élément fondamental de l'Amérique. Le paradoxe entre une apparente tranquillité et une violence extrême. Il faut arriver à le saisir, songe l'écrivain. Son compagnon, Jack Dunphy, s'assied dans le fauteuil en face de lui. Oh, toute cette histoire de meurtre, tu devrais commencer à connaître l'article par cœur maintenant, non? Moque-toi seulement. Personne à part moi ne semble voir le potentiel de ce fait divers. Lui répond Truman. Jack sourit. Autant Truman est exubérant et provocateur, autant Jack est discret et courtois. En couple, depuis plus de 10 ans, ils se comprennent parfaitement. Quand Truman décroche le téléphone et appelle de New Yorker pour proposer un grand reportage sur ce quadruple meurtre, Jack comprend que ce n'est pas une lubie. Une semaine plus tard, Truman part pour Holcombe avec Nell, son assistante, comme il aime l'appeler. Elle est bien plus que cela. Nell est le vrai prénom de Harper Lee, l'autrice du best-seller « Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur ». Ces deux grands écrivains de l'époque sont intimes depuis l'enfance. Et elle est sa confidente de toujours. Elle connaît tous les petits mensonges qu'il aime cultiver autour de sa personne. Elle connaît son inextinguible besoin de briller. Elle connaît aussi son immense talent et sa capacité de travailler. Dans le train qui les emmène au centre des États-Unis, au fin fond du Kansas, Truman se confie. Ce ne sera pas un simple reportage, ce sera un roman et ce sera plus qu'un roman. Ce sera LE roman. Le roman de Truman Capote, complète Nell en rigolant. Exactement, darling, le roman de Truman Capote. Rien que ça, dit-elle, mi-sourire, en observant son vieil ami à travers la fumée de cigarette qui a envahi leur compartiment. Ce quadruple assassinat représente une opportunité unique. Écrire un roman d'un genre nouveau, qu'il baptisera plus tard le non-fiction novel. Un roman qui s'appuie sur les faits et les détails authentiques au plus proche de la réalité. Dans cette affaire sordide, le mobile est dérisoire. Les assassins n'ont dérobé que $40, une petite radio, une paire de jumelles et d'autres objets sans valeur. Un butin absurde au regard de la gravité des faits. Truman le sent. La réalité de cette histoire est plus forte que toute fiction. Et c'est bien cette réalité qu'il compte approcher au plus près. Il ne le sait pas encore, mais ce roman constituera le sommet et la fin de sa carrière d'écrivain. Les habitants d'Holcombe n'en reviennent pas de la tragédie qui s'est abattue sur des membres de leur communauté. Les Clotteurs étaient des gens bien. Herbert était un patron juste et humain avec ses employés. Il ne se passe jamais rien dans ce petit patelin, si ce n'est les concours de tarte aux cerises ou les changements de saison. Alors, Quand à la tragédie s'ajoute l'arrivée d'un auteur aussi excentrique que Truman Capote, on ne comprend plus rien. Truman et sa réputation, son allure affectée et efféminée, dénotent dans cet univers rural. Le choc culturel est inévitable. C'est bien pour cela qu'il a insisté pour que Nell fasse partie du voyage. Elle sera sa porte-parole, son passe-partout social, sa porte d'entrée dans ce monde dont il ne perd pas une miette. La petite communauté de Holcombe ne s'en doute pas, mais elle est soigneusement observée. L'écrivain enregistre le moindre détail, les sons, les paysages, les aspects physiques. Elle fait déjà partie du roman pour lequel Truman prend des notes assidues. De l'employé des postes jusqu'à Bobby Rupp, l'amoureux de Nancy. Capote parle avec toutes celles et ceux qui sont concernés par l'affaire de près ou de loin. Il croise les points de vue avec la précision et la rigueur d'un journaliste de haut niveau et la qualité littéraire d'un grand écrivain. L'agent spécial du Kansas Bureau of Investigation, Alvin Dewey, lui ouvre certaines portes de l'enquête. Dewey avoue n'avoir aucune piste. Il ne sait même pas s'il s'agit d'un seul ou de plusieurs suspects. Au sein de la petite communauté de Holcombe, les spéculations vont bon train. On se méfie. Et si le ou les tueurs étaient de la région, comment pouvait-il connaître les lieux aussi bien ? Il n'y a aucune trace d'effraction. Herbert ne fermait jamais les portes. Comme tout le monde. À Holcombe, d'ailleurs. La confiance, l'accueil et la solidarité ont toujours été les meilleurs systèmes de protection de la petite communauté. Le suspect numéro un, pour l'heure, n'est autre que Bobby Rupp, l'amoureux de Nancy et voisin de la ferme des Clutter. Herbert Clutter voyait d'un mauvais œil l'union entre sa fille méthodiste et le jeune Bobby, catholique. Mais la piste est très vite écartée après que Bobby soit passé au détecteur de mensonges. Il reste bien quelques ennemis de Herbert Clutter dans la région, mais rien de sérieux. Aucune piste valable ne se dégage. Le Kansas Bureau of Investigation porte son attention sur tous les proches des Clutter. Comme le couple de concierges, le couple Ewald qui habite la maison à une cinquantaine de mètres de la propriété des Clutter. Ils n'ont rien entendu. Quatre coups de feu avec un fusil de chasse, ça s'entend pourtant bien. Le vent cette nuit-là soufflait fort et une grange sépare les deux bâtiments. Et que dire de l'arme du crime ? Un fusil de chasse de calibre standard, du 12, comme tous les fermiers de la région en possèdent. Et le mobile surtout. Tuer quatre personnes pour dérober $40 ? Non, ça tient pas la route. Oui, mais alors pourquoi ? Par jalousie ? Par vengeance ? Toutes les pistes sont possibles. Il y a quand même ces traces dans la cave. Dans la mare de sang laissée par Herbert Clutter, on a trouvé des traces de semelles, avec le motif « quatre spours ». Très bien. Mais là aussi, ce sont les motifs de millions de semelles de bottes aux États-Unis. En attendant, les portes sont désormais fermées à clé à Holcombe. Les fusils de chasse sont armés et les lumières restent allumées la nuit. Et le pire, sans doute, on commence à se méfier de tout le monde. Au centre pénitentiaire de Lansing, un certain Floyd Wells croupit dans la chaleur rance de sa cellule. Pour passer le temps, il a l'habitude d'écouter les nouvelles sur sa radio. Ce qu'il entend ce soir-là le fait bondir dans son lit. Herbert Clutter, son ancien patron, assassiné, lui et toute sa famille. L'enquête est au point mort. Non, Dick n'aurait pas osé faire ça. Il faut une semaine à Floyd Wells pour se décider à avertir les enquêteurs. En un temps record, Floyd se retrouve dans une salle d'interrogatoire face à Alvin Dewey. Ce dernier comprend tout de suite qu'il a face à lui un petit criminel vantard qui a peur des conséquences de ses mensonges. Oui. Oui, des mensonges. Ce sont des mensonges qui ont mené quatre innocents à la mort. Floyd Wells avoue avoir parlé à un certain Dick de Herbert Clutter comme d'un riche fermier, manipulant des dizaines de milliers de dollars quotidiennement. Car Floyd a travaillé pour Herbert Clutter en tant qu'ouvrier agricole. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'Herbert Clutter manipulait bien de grosses sommes d'argent, mais comme tous les fermiers qui perçoivent et investissent des sommes importantes. Seulement, Herbert Clutter mettait un point d'honneur à tout encaisser et payer par chèque. Par sécurité et par facilité. Floyd a menti pour se donner de l'importance, en affirmant que Herbert avait un coffre dans son bureau. Pour prouver ses dires, il a même donné un plan très précis de la ferme et des environs à Dick avant que celui-ci ne sorte de prison en septembre. Un beau coup à réaliser, s'était vanté Floyd Wells. Le genre de fabulation qu'on aime bien lancer avec les autres détenus pour se donner de l'importance, confie le prisonnier inquiet. Il ne se doutait pas que Dick pourrait tenter l'aventure et que ça puisse se terminer de cette façon. Enfin, Dewey tient quelque chose. Floyd Wells affirme que ce Dick traînait avec un certain Perry Smith avant que ce dernier ne soit libéré sur parole. À la frontière mexicaine, dans le désert de Mojave, deux hommes font du stop. Ils n'ont plus qu'une vieille valise remplie à craquer par les quelques biens rescapés de leur virée au Mexique. Plus d'argent, plus de voiture. Leurs rêves de chasse au trésor et de plongée se sont révélés être des chimères. Et de toute façon, Perry ne sait pas nager. Un foutu rêveur, songe Dick. Le long de la route 66, ils attendent la proie idéale. Un voyageur solitaire dans une voiture convenable, avec de l'argent. Ils le voleront, l'étrangleront et abandonneront son corps dans le désert. Faut juste être patient, même si personne ne s'arrête pour deux autostoppeurs dans leur état. Tous les deux hirsutes. La poussière du désert colle à leur transpiration. Mais la chance finit toujours par tourner. Il suffit d'attendre. Et Dick est d'excellente humeur à l'idée de revenir aux États-Unis. Perry sort l'harmonica qu'il a volé la veille et entonne dans le silence immense du désert ce qui est devenu leur musique de marche. Mes yeux ont vu la gloire de la venue du Seigneur. Il foule aux pieds la récolte où se trouvent les raisins de la colère. Les agents du KBI dirigés par Alvin Dewey n'ont à présent plus qu'à suivre le fil des voitures volées, des faux chèques pour remonter la piste que les deux hommes laissent derrière eux. Leur signalement a été donné à toutes les polices du pays. La cavale prend fin à Las Vegas le 30 décembre. Alors qu'Alvin Dewey s'apprête à passer à table avec sa femme, ses enfants et Truman Capote, devenu un proche de la famille de l'agent spécial, un coup de fil de Las Vegas lui annonce que les deux oiseaux sont arrivés en ville. La voiture volée de Dick et Perry, une Chevrolet noir et blanc de 1956, est repérée par une voiture de police. Elle suit discrètement les deux hommes et attend que Perry Smith ait récupéré un colis à la poste restante de Las Vegas. Un colis contenant entre autres effets personnels, une paire de bottes aux empreintes identiques à celles trouvées à côté du corps de Herbert Clutter. Des empreintes quatre spours. Une heure plus tard, Alvin Dewey reçoit un message codé du quartier général de la police de Las Vegas. Il tient en quelques mots. Les oiseaux sont en cage. Dick, alias Richard Hickok, et Perry Smith finissent par avouer après des heures d'interrogatoire au QG de la police de Las Vegas. Un détail interpelle l'agent spécial Alvin Dewey, qu'il racontera plus tard à Truman Capote. Ce Perry Smith est tellement petit que ses pieds ne touchent pas le sol quand il est assis. Un homme enfant. Plus tard, dans la voiture de police qui le ramène au Kansas, Perry avoue même être l'unique meurtrier. C'est lui qui a tiré à bout portant sur les quatre clotteurs. Dick est celui qui a tout organisé et insisté pour qu'il n'y ait pas de témoins. Qui sont ces deux hommes? Capables d'un acte aussi monstrueux, Truman ne va pas tarder à le découvrir. Perry et Dick sont ramenés vers l'Arkansas le 30 décembre 1959. Truman les voit pour la première fois devant le palais de justice de Garden City, avec la foule venue assister à l'arrivée des deux tueurs. Dick est un homme plutôt grand, âgé de 28 ans, très sûr de lui. Même trop sûr de lui. Un beau parleur, jamais en panne d'une bonne blague, victime d'un accident pendant son enfance. Une moitié de son visage est dissymétrique par rapport à l'autre. Perry est différent. Très petit de taille, les épaules voûtées, il marche en boitant, souvenir d'un accident de moto. Certains parlent de lui comme d'un gnome venimeux. Il parle moins, il pèse ses mots. C'est son regard surtout qui frappe Truman. Des yeux noirs, d'un sombre profond, hérité de sa mère indienne. Il reflète une mélancolie et une solitude qui l'intriguent tout de suite. Nell lui déclare « Taillé, tu l'as trouvé ton personnage principal ?» Oui, il a trouvé son personnage principal. Et l'histoire ne fait que commencer là où il pensait qu'elle s'arrêterait avec l'arrestation des deux coupables. Car Truman va aller à la rencontre de ces deux tueurs de sang-froid. La prison de Garden City est peu habituée à recevoir des criminels de ce calibre. Perry est séparé de Dick. Il est enfermé dans l'unique cellule réservée aux femmes. Une sorte de cage située dans l'appartement du couple de gardiens de la prison. C'est là que l'écrivain parle avec Perry pour la première fois. Truman Capote note beaucoup de points communs entre lui et le tueur de sang-froid. Une petite taille, une enfance chaotique. Une trop grande sensibilité, victime de rejet et d'exclusion. Il voit dans la vie de Perry ce qu'il aurait pu devenir. Et quand Alvin Dewey lui reproche de chercher des excuses à Perry, Truman lui répond de sa voix nasillarde et haut perché. « Alvin, je sais bien que c'est inexcusable. Mais Perry et moi, nous nous ressemblons. Même parents dysfonctionnels, même difficultés. Et à un croisement de la vie, j'ai pris à droite et Perry a pris à gauche. » Comme la mère de Truman, la mère de Perry s'est suicidée à 42 ans, après 20 années d'autodestruction par l'alcool. Ils étaient quatre enfants issus de cette mère Cherokee et d'un père irlandais. Deux artistes de rodéo, une vie précaire, faite de nuits passées dans le vieux camion qui transportait les six membres de la famille. Jusqu'à ce que les parents se séparent, après des années de disputes violentes. La mère a emmené les enfants bientôt livrés à eux-mêmes dans les rues de San Francisco. Pour Perry, ce fut l'orphelinat catholique et les mauvais traitements à répétition de la part des sœurs sur cet enfant métis qui mouillait son lit sans arrêt. Puis ce fut encore pire. L'assistance publique, où il faillit mourir de pneumonie après avoir été plongé des heures durant dans une baignoire d'eau glacée. Son père réapparaît et l'emmène. L'enfant l'accompagne dans une vie sans attache, de petit boulot en petit boulot. Très souvent, la situation dégénère entre le fils et le père. Perry finit par s'enfuir. Sa vie ressemble à une errance solitaire, sans amour. Arrivé à l'âge adulte, son frère Jimmy se suicide en se tirant une balle dans la tête. Sa sœur Fern se jette par une fenêtre. Dans cette famille, il ne reste que lui et sa sœur Barbara, la seule de la famille à avoir réussi à construire une vie stable. Et ce père qui vit en ermite, quelque part en Alaska. Enfant, puis jeune homme sensible et intelligent, Perry se réfugie dans l'art et les rêves de grandeur. Oh, il se verrait bien chanteur. Il écrit, joue de plusieurs instruments, mais c'est la misère et la précarité qui l'accueillent. La souffrance physique aussi, après un accident de moto dont ses jambes restent gravement meurtries. Et puis, la petite criminalité, des cambriolages, une condamnation, une évasion, à nouveau arrêté. Il est condamné à 5 ans de prison. Truman perçoit une immense solitude, la même qu'il a pu ressentir dans son enfance. La même blessure originelle habite Perry. Le tueur agit comme le miroir dans lequel se reflète le côté obscur de l'écrivain. Ce qui le trouble le plus, c'est que Perry n'est pas insensible au monde extérieur. Comme cet écureuil qui vient lui rendre visite à la fenêtre de sa cellule et qu'il a fini par apprivoiser. L'instruction judiciaire révèle des éléments troublants et contradictoires. Comme les oreillers que Perry a mis derrière la tête de ses victimes pour qu'elles soient à l'aise avant de les exécuter à bout portant. Ou encore le carton disposé en dessous du père Clutter pour lui éviter de prendre froid après qu'il l'ait ligoté dans la cave. Perry dira de Monsieur Clutter qu'il avait l'air d'être un homme bon. Il avait une voix douce et puis je l'ai égorgé. Oui, songe Truman. Tout reste à écrire pour comprendre ce qui motive un homme à tuer de sang-froid. Truman va cerner de mieux en mieux l'indescriptible après que Perry et Dick soient condamnés à la peine capitale. La loi du talion en vigueur dans l'État du Kansas condamne ces deux hommes à être pendus. Œil pour œil, dent pour dent. À présent, Perry et Dick sont de retour au pénitencier de Lansing. Mais cette fois, au dernier étage, dans le couloir de la mort. Ils vont y passer les 5 dernières années de leur vie, de sursis en sursis. 5 années dans une cellule de 3 mètres sur 2. Une ampoule continuellement allumée au-dessus de leur tête. Tel sera leur univers, et celui de Truman Capote, au cours de ses innombrables visites. Mais comment l'écrivain a-t-il pu obtenir un droit de visite dans le couloir de la mort, vous demandez-vous peut-être? Eh bien, c'est simple. Comme tout peut s'acheter aux États-Unis, Truman a versé $10,000 à un politicien qui en a généreusement fait profiter, le directeur de la prison. Une histoire d'amitié commence entre l'écrivain et le condamné à mort. Enfin, une histoire d'amitié pas tout à fait désintéressée, puisque les confessions intimes d'un condamné à mort représentent une véritable mine d'or pour un auteur. En attendant, cet intérêt de l'écrivain sauve Perry et Dick de la solitude et de l'oubli, auquel condamne l'allée de la mort, comme on dit au pénitencier de Lansing. Et surtout, Truman est sans doute la seule personne à s'être jamais intéressée à la vie de Perry, à le tenir en estime. Le condamné se confie entièrement. Il dévoile toutes ses blessures, ses rêves brisés et son sentiment d'exclusion permanente. Et quand il pose la question fondamentale à Truman, « Pourquoi écrire ce livre ?» Truman lui répond sans détour, « Pour écrire une œuvre d'art. » Une œuvre d'art, éclate de rire Perry. Tu parles d'une ironie. La seule chose que j'ai jamais voulu faire dans ma vie, c'est une œuvre d'art. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai tué 4 personnes. Et c'est bien ce qui est en train de se passer. Au cours des années précédant leur mise à mort, Truman confie à Nell, parfois quand je songe au potentiel de mon livre, je peux à peine respirer. Il connaît les moindres détails de la vie des deux hommes qu'il racontera plus tard dans son roman. Chacun des deux prisonniers lui confie avoir voulu se débarrasser de l'autre à un moment donné. Il apprend même qu'au cours de leur cavale, ils avaient projeté de tuer un automobiliste en faisant du stop dans le désert de Mojave. Heureusement pour lui, ce conducteur a eu la chance d'embarquer un troisième autostoppeur au moment où Perry, assis à l'arrière, s'apprêtait à l'étrangler. Truman peut écrire la troisième partie de son livre consacrée à cette fameuse nuit du 14 au 15 novembre 1959, dans la propriété des Clutter. Sauf qu'à présent, cette soirée est vue par Perry et Dick, les tueurs. Par une narration épurée et sans aucun artifice, ils racontent comment ils n'ont pas trouvé ce fameux coffre, comment ils en sont venus à enfermer chaque membre de la famille dans une pièce différente. Comment ils espéraient qu'ils révèlent la place de ce fameux coffre en leur faisant peur. Comment Dick était furieux et honteux face à cet échec. Ce coffre n'existait pas. Au lieu des 10 000 dollars, ils ne trouvèrent que 40 dollars et un autre dollar dans la bourse de Nancy, la jeune fille de 16 ans. Il apprend aussi comment la colère de Perry montait vis-à-vis de cette situation absurde. En être réduit à voler une radio, des jumelles, tout ça pour ça. Des détails encore plus sordides apparaissent. Dick voulant violer Nancy, Perry s'y opposant catégoriquement. Et puis la cave, où il installe Herbert Clutter sur un carton pour ne pas qu'il ait froid. Cette sensation de plus en plus forte de ne plus appartenir. Face à Dick, jouissant de sa toute-puissance sur cette famille. Un engrenage s'est mis en place. Perry ne peut plus faire marche arrière, en dépit de ce qu'il éprouve face au père Clutter. La première victime qui va enchaîner les autres mises à mort. Truman écrit. Il ne détestait pas cet homme. En réalité, il l'admirait presque. Mais il sentait que tout ce qu'il représentait, la réussite, la stabilité, la foi, lui était interdit pour toujours. À travers le portrait des tueurs, Truman contrebalance l'image de ce Perry parfaitement insensible, voire arrogant au cours du procès. Comme cette photo où il rit avec Dick après leur condamnation à mort. Pas des poltrons, ces membres du jury, hein? Il rend toute la complexité de l'homme, notamment par les remords qu'il lui avoue dans le couloir de la mort. Je ne les voulais pas morts, pas eux, pas cette famille. Ils ne m'avaient rien fait. Mais une fois que c'était commencé, c'est comme si je regardais quelqu'un d'autre le faire. Après 5 années de détention dans le couloir de la mort, Truman a déjà écrit les 3/4 de son livre. Il se divise en 4 parties. Il ne lui manque à présent que le dénouement. Il connaît même le titre de la 4e partie, le coin, qui, dans le langage des prisonniers, signifie le couloir de la mort. Il faut que son personnage principal, Perry, meure, au propre comme au figuré. Un dilemme moral pour l'écrivain, partagé entre l'horreur de cette mise à mort et le besoin presque vital de pouvoir finir son livre. Il y a mis toutes ses forces et son talent depuis plus de 5 ans. Il est arrivé aux confins du mal qui habite la nature humaine. Mais il est enchaîné à cette histoire tant que la réalité ne trouve pas son épilogue. Comme il le confie à un ami, début 1965. Perry et Dick ont écrit pour obtenir un nouveau sursis. S'il leur était accordé, j'en ferais une dépression nerveuse. Mais la demande de sursis est rejetée. Et le dénouement arrive un soir du 14 avril 1965. À présent, direction l'entrepôt de la prison de Lansing. C'est là, dans un hangar où on stocke toutes sortes de choses, que se trouve la potence. 13 marches à gravir pour ensuite effectuer la grande culbute, comme disent les détenus. Dick et Perry l'ont déjà entendu fonctionner avec un expansionnaire du couloir de la mort. Le bruit d'une trappe qui s'ouvre, suivi du bruit sourd d'une nuque qui se brise. Dick et Perry ont demandé à ce que Truman assiste à leur exécution. L'écrivain est venu jusque Kansas City, mais il est incapable de quitter son hôtel pour partager leur dernière journée. Alors, Perry écrit une lettre pour lui et Harper Lee. Je regrette que Truman n'ait pu venir ici pour échanger deux ou trois mots avant la petite fête de la cravate. Mais je veux que vous sachiez que je ne vous en veux pas et que je vous comprends. Je veux que vous sachiez tous les deux que j'ai beaucoup d'affection pour vous. Mais c'est l'heure du collier. Adios amigos, tous mes vœux. Votre ami pour toujours, Perry. De sang-froid, ils ont tué. De sang-froid, ils vont être exécutés. De sang-froid aussi, Truman capote. Se décide finalement à assister à l'exécution. C'est le seul moyen pour lui d'achever ce livre qui lui a coûté beaucoup trop. Les images de cette exécution ne le laisseront jamais en paix pour le reste de sa vie. C'est assemblé de 20 personnes, avec Alvin Dewey et les autres inspecteurs, le bourreau coiffé d'un chapeau de cow-boy, les gardiens, aucun membre des familles, et puis ce médecin, venu pour constater la mort après les interminables minutes où les corps des deux condamnés s'agitent de leur dernière convulsion. 22 minutes, très exactement, pour Perry. Truman n'apparaît jamais dans le livre, mais on peut tout à fait imaginer ce qu'il ressent à travers le personnage de l'agent spécial Alvin Dewey. Dewey se souvint de la première fois qu'il avait rencontré Perry, l'homme enfant, le nabo, assis sur la chaise métallique, ses petits pieds chaussés de bottes n'arrivant pas jusqu'à plancher. Et lorsque Dewey rouvrit les yeux à présent, c'est ce qu'il vit. Les mêmes petits pieds d'enfant qui pendaient. Truman paye 141 $ à la prison pour que Dick et Perry puissent avoir chacun une pierre tombale digne de ce nom. Revenu à New York, il achève le livre en un temps record. Truman veut se débarrasser de ce poids qui lui est devenu insupportable. « Jamais plus », écrit-il à l'un de ses amis. Effectivement. Il n'écrira plus, si ce n'est un roman inachevé. Il sombrera de plus en plus dans ses travers que sont l'alcool et les drogues. Et pour l'heure, le succès est immense. Dès la première année, In Cold Blood est vendu à plus de 2 500 000 exemplaires, traduit en 35 langues. Une véritable consécration pour un livre qui devient instantanément un chef-d'œuvre de la littérature américaine. Truman est désormais un écrivain reconnu et riche. Au sommet de sa gloire, il organise même une soirée au Plaza de New York avec le gratin du showbiz. Sinatra, Marilyn Monroe, tous sont venus célébrer l'auteur de In Cold Blood, celui qui a pu raconter avec un tel sang-froid la mort de 6 personnes. C'est ici que s'achève notre récit, que j'ai eu le plaisir de partager avec vous grâce à la plume de Dominique Reding et à la collaboration des équipes de LDV Productions.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.